Je suis à la supply chain.
Ok.
On est dans la logistique depuis 2005 ou 2006.
Ok.
Ouais. Les aléas des plans de charge. Moi, enfin, j'ai eu un. Donc j'étais taulier. Après j'ai fait opérateur DAO. Je mettais les plans à jour en informatique
Ok.
au bureau d'études. Et après je suis allée comme à l'axiométrie. Après la mesure 3D, j'ai fait deux enfants, du coup placard. Allez,
Ah.
les gars avaient pris mon boulot. Donc je me suis retrouvée. J'étais mécanicien crotale avec
Ouais.
Patrick Grosleron et Jean-Pierre.
Ah, c'est mécanicien crotale.
Crotale,
C'est un
c'est un
lance-missile.
système d'armes.
D'accord, ok.
Un
Lance-missile
lance-missile.
anti-aérien. Non, anti-navire.
Ouais. Et du coup, les mécanos, c'est vraiment à l'arsenal, à l'artillerie. Tu démontes, c'est que si tu prenais une voiture et que tu la désossais entièrement,
Ouais.
tu révisais toutes les pièces et que tu remontais. Après, on a perdu les marchés de crotale.
Ouais.
Donc me voilà, c'était l'époque où il fallait mettre de l'or dans les magasins. Ce qu'on appelait les magasins, c'était les pièces de rechange. Et il fallait mettre de l'or. Et moi, comme j'avais un parcours, je connaissais les gens, les pièces, l'informatique à l'aise. Du coup, je me suis retrouvée avec Gilles à mettre de l'or dans le magasin, quoi. Réintégrer les pièces, la gestion, tout ça. Parce qu'on préparait l'ERP. C'est un grand logiciel qui sert à toute la gestion financière et informatique des stocks, des factures, des réceptions.
Ok.
Ça, c'est, si tu veux, on travaille avec le même ERP, là on travaille avec Oracle. Je sais qu'à Super U, ils ont Oracle aussi, tu vois. Enfin,
D'accord.
c'est un outil informatique. Donc du coup, je me suis retrouvée comme magasinier, hein. Bénac, comme on dit en breton.
Quelqu'un.
Quelconque, ouais. Et puis, après, entre-temps, il y a eu les changements de statut, tout ça, et la nouvelle maladie des grandes boîtes de réorganiser tout. Et là, on m'a proposé un poste de chef d'équipe. Donc, je suis devenue chef d'équipe de magasin. Donc, j'avais cinq
Il
gars,
doit
ouais.
pas avoir beaucoup de femmes chez l'équipe.
Non, il y avait Marité Mandon, Dominique, et il y en a une aussi dont je connais pas le nom, qui était à la compta. On était que quatre. Maintenant, il y en a peut-être d'autres. Mais... Ouais, du coup, je me suis retrouvée chef d'équipe. Oh, la promotion! Oh. Et puis après encore une réorganisation que moi j'ai pas du tout accepté. Et du coup après j'ai repris les mandats syndicaux et on m'a enlevé le management. Je me suis retrouvée coordinateur logistique. Comme je connais
D'accord.
bien la boîte, les matériels, tout ça, j'ai de quoi faire la gestion du stock, tout ça.
Ok.
Voilà. Et donc je suis toujours à la logistique.
En
Et,
exercice.
ouais, mais par contre j'ai des mandats syndicaux sur Brest, donc sur Naval Group Brest, et je suis aussi suppléante sur le CSEC, donc le CSE central, donc qui est à Paris. Donc
Ok.
je fais la, la j'ai deux sortes de mandats, un sur Brest et un au siège au corporate.
Ok.
Ouais, donc du coup j'ai quand même, et je suis élue à la base CHSCT, donc je suis devenue, avec la réforme du CE qui est devenu CSE, je suis élue CSSCT aussi, donc maintenant j'ai rajouté une corde économique
Ok.
à mes fonctions syndicales. Alors que moi j'étais très plutôt conditions de travail, santé au travail.
Ouais.
Du coup, voilà.
Ok.
Voilà mon parcours. Donc j'ai 56 ans. Donc je suis en fin de carrière aussi, parce que j'aurais sans doute un départ anticipé avec l'amiante aussi.
D'accord.
Parce que j'étais exposée aussi au bâtiment en fer,
Ok.
avec l'amiante.
Ok.
Voilà le résumé.
Oui.
Voilà, j'ai pas parlé beaucoup de syndicats.
La grande maison. Histoire d'Arsouille. À retrouver chaque semaine sur Radio U.
On les retrouve en raccourci.
Alors, donc moi je m'appelle Françoise Pellet, je suis née en 66 et donc je suis rentrée aux apprentis en 82. Donc j'ai passé le concours. Alors, de mémoire, je crois qu'on était à peu près 900 à passer le concours. Et on devait être à 80 ou 90 à être reçu. Donc, alors quand on passait le concours, alors moi c'était tout con, c'était chez ma grand-mère un dimanche soir. Il y avait à l'époque la feuille de chou de la mairie, comment on appelle ça, le moustiquaire, là, qui disait il y a un concours. Il y avait un petit entrefilet qui disait qu'il y avait un concours. Puis moi je me plaisais plus trop à l'école, je dis tiens, j'étais en seconde à la Croix-Rouge, je dis tiens. pourquoi pas m'inscrire. Ah, ma mère m'a inscrit. Donc je me suis pointée au concours. Donc là, c'était moi j'ai passé le concours à la Gueule d'Or. Donc c'était le restaurant là où il y a au-dessus des Capucins. Alors, on était deux par table de cantine. Et puis là, c'était on avait des maths, des physiques et du français. Donc on fait le concours, puis on s'en va. Et puis après, on a eu une lettre à la maison, comme quoi on était reçu. Et puis après, j'ai reçu une lettre comme quoi c'était charpentier-taulier. Je ne savais même pas ce que c'était, ce métier-là.
Vous n'avez pas choisi?
Non. Quand on a été reçu, après, on a eu des tests psychotechniques. Je pense qu'il y avait une partie du choix du métier qui était fait avec les notes. Et après, on avait des tests psychotechniques. Et là, c'est pareil, c'était au plateau des Capucins. Il y avait un service psychotechnique. Hein. Ouais, et donc, du coup, on avait un Oméga, un jeu où c'était avec deux boutons comme un tel écran. C'était en forme d'Oméga et on devait faire tourner le bouton sans toucher, sinon ça faisait du bruit. Oh, moi, j'ai failli foutre le truc par la fenêtre. Hein. Et après, on avait des vis aussi. Il fallait mettre le plus de vis sur un support. Enfin, bon, du coup, là, la dextérité, sans doute, n'était pas au top. Donc voilà, je suppose que c'est à cause des notes et à cause peut-être du manque de dextérité. On me demandait qu'est-ce que je voulais faire. Moi, je voulais faire charpentier bois. Mais à cette époque-là, où c'était menuisier, mais ils ne prenaient pas de filles. Ils allaient à l'île factice à l'époque. Ouais. Et à cette époque-là, pas de filles. L'année suivante, il y en a eu.
Où c'est l'île factice?
Non, pas l'île factice, au Chaloupe et Canotte. Ah ouais. Les apprentis, si tu veux, au lieu d'être au plateau des Capucins. Les gars, les cours de maths, physique, français, tout ça, c'était au Capucin. Et par contre, eux, nous, nos cours, les tauliers, les cours étaient là-haut. Par contre, les menuisiers, comme ils étaient pas nombreux, du coup, eux, ils allaient carrément apprendre sur le chantier avec les gars. Donc là, ils allaient à Chaloupe et Canotte, donc à côté des bâtiments en fer. Donc on m'a dit, pas menuisier, hein, ça. Bon, mécano, c'était noté. Et puis après, quand j'ai reçu ma feuille, charpentier taulier.
Parce que justement, les apprentis, ça ne devait pas faire longtemps que c'était ouvert aux femmes.
Alors, les premières promos, c'était au Deal.
Ouais.
Donc, ça devait être... c'était ce qui était 62 ou 63, ouais. Donc, ça devait être 3-4 ans, sans doute, que c'était ouvert aux filles.
72
Non, mais si tu... qui était né en 62 ou 63. Donc moi, je suis rentré en 82, ouais, donc peut-être depuis 79, 80, peut-être. Mmh. Ouais, c'était pas vieux, non.
Et du coup, quand vous passez le concours, il y a d'autres femmes aussi avec vous qui passent le concours, vous souvenez?
Pas trop, non, c'était vraiment une grande salle, et puis, je sais pas, je pense que quand on passe un concours, on est un peu stressé. Mmh. Du coup, je sais qu'il y avait une fille à côté de moi, mais j'avais pas ce regard un peu féministe que j'ai maintenant, donc j'ai pas trop fait attention. Par contre, après, quand on est arrivé aux apprentis, ah ben là, le vestiaire des filles était assez petit, mais nous, on était donc trois tauliers. Les mécanos, je suis sûre que c'était six. Peut-être qu'il y avait deux classes, donc peut-être 7-8. Et les électriciennes, il devait bien y avoir 4-5 aussi. Donc, il y avait dans toutes les professions, sauf mon année, moi, sauf menuisier. Et après, les arpètes, ça n'a pas été... c'était pas terrible. Enfin, les autres se sont plus. Moi ça, je ne garde pas un souvenir fabuleux. J'avais un prof qui était un peu misogyne, donc je ne citerai pas son nom. Il se reconnaîtrait. Il avait même... on faisait des pièces avec une certaine épaisseur de tôle. Et ce gars-là, qui a fait des cours après, parce qu'il était instructeur, il a fait des cours après au TSO, il a dit aux dessinateurs, quand il faisait un cours de dessin, que quand il y a eu des filles comme Tolly, ils avaient augmenté le gabarillage des pièces, c'est-à-dire l'épaisseur des tôles, pour que les pièces soient plus lourdes. Juste pour embêter les filles. J'ai appris ça quelques années après. J'ai trouvé ça très moyen. Et ce gars-là, quand il me voyait au bâtiment en fer, il faisait un grand sourire, il venait me dire bonjour. Ah non. Enfin, je n'étais pas trop d'accord. Sinon, je n'ai pas aimé les arpètes. Par contre, je pense que c'était une bonne école. C'était quand même... c'était vraiment complet. Et après, quand on arrivait sur le boulot, là, on avait ce qu'on appelait un matelot. Et on était en binôme avec cette personne-là. Et c'était avec elle qu'on travaillait. C'était lui le chef de caisson et c'est lui qui nous apprenait le boulot. Et quand je suis arrivée, mon bâtiment fer, il faisait tourner les apprentis. Donc on faisait, c'était pas des stages, mais on faisait trois postes. Donc moi j'ai fait le tracé des matériaux qu'on appelait TMX. Donc ça, on prenait les tôles brutes, on les traçait pour que les gars les découpent, les forment, on mettait toutes les instructions dessus. Après, j'ai fait la petite tôlerie, où là, c'était plus des coffrets électriques, c'était plus des petits carlingages, tout ça par là-bas. Et après, on appelait ça F7. C'était le numéro de la nef et son empreinte. Et là, moi, j'étais sur la plaque des fous. Elle était appelée comme ça. Ah, parce que, ah oui, les surnoms, c'était chose... Ah, ça, c'est quand même dans la... Ouais, c'est typique de la boîte. Hein. Tout le monde avait son surnom, le connaissait ou pas, d'ailleurs. mais ils avaient, là-dessus, ils avaient une sacrée imagination. Hein. Il y en a quelques-uns qui sont chouettes. Je cite régulièrement, il y en a un, on l'appelait le zèbre. Et pas du tout rapport à son physique, ni à son... Il s'appelait le dos à raie. Donc un dos avec des raies, c'est un zèbre.
D'accord. Et vous alors, c'était quoi votre...
Ah, moi je sais pas. J'en avais sûrement, mais j'ai pas su.
J'en
ai eu plusieurs. Et un tigeon, on l'appelait la savonnette. Parce qu'on n'arrivait pas à mettre la main dessus quand on le cherchait.
J'étais collecteur. Et puis je distribuais aussi les tracts dans l'atelier. Donc j'allais dans tous les services. Et ça prenait quand même du temps. Si je disais un mot à tout le monde, on était quand même 300 à la retirer. Et donc ils se retournaient, j'étais parti plus loin. Donc surnommé la savonnette.
Ah, bonne ambiance. OBF, hein, OBF c'était fliqué quand. C'était un peu. OBF c'était. Tu devais être à ton poste de travail. C'était un peu comme au plateau, c'était très...
Ouais.
Et puis, quand je suis arrivée là-bas, j'ai dit ça, je vous voyais mon chef d'équipe, ils se foutaient tous de ma gueule, quoi. Mmh. Bah, t'as 18 ans, t'arrives dans un atelier de 700 personnes.
Waouh. Ah oui, 700 personnes.
Ouais, on était plus de 7000 quand je suis sortie des apprentis. Hein. Du coup, à cette époque-là, le monde ouvrier à la production était énorme. Il y avait du bureau d'études aussi, mais à la production, c'était super nombreux. Et du coup, tu arrivais là, 18 ans, 50 kilos, et il y avait des vieux de la veille qui avaient déjà des habitudes qui n'étaient pas forcément...
Et une femme en plus.
Et oui. On est arrivé à trois, il y avait Véronique, Christine et moi. Bah, tu arrives dans un milieu d'hommes comme ça, pas évident. Et c'est là que je pense que le syndicat aussi, il y avait des gens, il y avait Pascal Mélazin, il y avait quand même des gens... Il y avait des gens chouettes, hein. il y avait des gens très chouettes, mais bon, par contre, il y avait une mentalité qui était quand même assez différente. Bah, parce que les gars, souvent, bah, madame, à cette époque-là, les gens plus âgés, madame ne travaillait pas. Hein. Donc, du coup, des filles, puis bon, comme c'était un métier physique, évidemment, on serait sans doute bonne à rien, quoi. Mais.
Dans l'atelier, vous êtes trois femmes.
Alors il y avait, on était plus. Il y avait Odile Tanguy qui était aussi traceur coq, et puis il y avait Nicole Arzur qui était une championne de handball à l'époque du Folgoat, qui était à la petite tôlerie. Donc il y avait quand même d'autres filles qui étaient là. Mais ouais, je pense qu'on était que. Et il y avait aussi Dominique, une électricienne qui était à la maintenance. Donc voilà, ça c'était des filles qu'on était au vestiaire. On n'était pas très nombreuses.
Et vous avez dit sur 700 ouvriers.
Ouais. Après, il y avait quelques femmes aussi. Alors là, j'ai parlé des femmes de la production plutôt. Il y avait quelques femmes quand même qui étaient à la préparation ou alors assistantes. Enfin, on disait secrétaire à l'époque. Il y avait quand même quelques femmes aussi, mais qui étaient plus dans les bureaux là. Mais c'était pas nombreuses non plus. C'était très masculin. Ouais. Je pense que on avait déjà quand même. Il y avait les ponts. Il y avait. Et puis on nous mettait pas au dressage non plus, hein. Donc il y avait quand même le dressage, c'est lorsqu'on donne une forme à la tôle, quoi. Soit c'est par le chalumeau, soit c'est à la masse, ouais. Donc là par contre on mettait pas de, là il y avait, dans ces services là il y avait pas de femmes. Et à la cale, moi j'ai fait un petit séjour à la cale, c'est pareil, on n'emmenait pas les femmes à la cale non plus, parce que il y avait quand même ils étaient pas idiots, comme on n'était pas taillés pour tous les métiers.
Mais parmi les mecs non plus.
Non, parmi les mecs non plus. Après, ouais, parmi les gars non plus, mais ouais. Non, ouais.
Mais il y avait une forme de misogynie quand même qui était présente dans les ateliers.
Ah, ouais, oui, ouais. Mais il y avait aussi cette forme-là. Alors à l'époque, j'ai eu aussi en parallèle mon parcours syndical, et à l'époque, les jeunes, on avait un journal qui s'appelait Hémoglobine. C'était les jeunes CFDT. On avait petite équipe. On se retrouvait d'ailleurs ici le soir après le travail. On ne prenait pas sur des heures syndicales, on se retrouvait après le boulot. Et on avait monté une troupe sous l'impulsion de Pascal aussi. Ça s'appelait le Théâtre de l'Opprimé. Et on faisait un sketch, enfin, on avait monté un spectacle justement. C'était sur ça, sur l'arrivée. Et on s'était pas arrêté à l'arrivée des femmes sur le lieu de travail. C'était l'arrivée des jeunes. Parce qu'un jeune qui faisait de la danse aussi, ou qui faisait pas du foot, ou qui faisait pas un truc masculin, il s'en prenait plein la figure aussi avec certains. Pas avec tout le monde, mais avec certains. Hein, moi, j'ai le souvenir un truc tout con que maintenant tout le monde qui est passé complètement dans les habitudes. C'est les gens qui se promènent avec une bouteille d'eau, qui boivent de l'eau régulièrement dans la journée. Ben, à l'époque, c'était quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, on en avait un qui était sportif, un jeune homme, c'était quand j'étais au métaux léger. Et ben, on l'appelait le dromadaire, quoi, parce qu'il buvait de l'eau. Mais c'était... Alors que maintenant, tout le monde se promène avec sa bouteille de flotte, quoi. Mais à l'époque, c'était insensé. Mais insensé. Et c'est là que je dis que tout ce qui est santé, sécurité au travail aussi, toutes ces choses-là, ça a progressé. Ouais. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même des métiers qui étaient difficiles et du coup, il y avait des choses qu'on ne fait plus maintenant, quoi. Mais le gars avec sa bouteille d'eau, ça va toujours le dromadaire. Ouais.
Et vous restez combien de temps, du coup, aux bâtiments Enfer avant de passer?
Alors, j'ai fait de 1985 à 1982. Fin 92. Par contre, une chose que j'ai pas dit, quand on est arrivé aussi sur le chantier, enfin au BF, et c'était le cas partout, on arrivait en septembre, on n'était pas titulaire, on n'était pas encore titulaire d'ouvrier d'État. Et quand on arrivait, ben en septembre, c'était l'époque où les chiffres de l'avancement tombaient. Donc ça voulait dire que ben, tous les ans, l'État donnait un budget pour la promotion des ouvriers d'État. Et il y avait telle profession, tant de postes, tel chantier, tant de postes. Et bien, tout de suite, mis dans le bain, allez hop, en manif. Donc, on faisait des débrayages le matin de 11h. Alors, c'était de 11h à 11h59. Parce que si on faisait plus d'une heure de grève, on nous enlevait la journée. Mais du coup, s'il y avait ce collectif-là, on ne se posait pas de questions, quoi. Parce que nous, on avait encore le temps avant de penser à notre avancement, puisqu'on venait d'arriver. Mais là, on était embarqués, ben, il n'y a pas assez, il faut qu'on y aille, quoi. Mais je pense qu'à l'époque, il y avait aussi un jeu de taquin entre les directions et les ouvriers. Il fallait qu'on montre qu'on était là, et du coup, on obtenait quand même un petit peu gain de cause, quoi. Et ça, je pense que c'est aussi fondateur d'un collectif, quoi. C'est, tout le monde n'y allait pas, il y avait toujours des gens qui n'y allaient pas, qui étaient baptisés les jaunes d'ailleurs, et c'était pas gentil du tout, mais on partait comme ça, et du coup ouais, ça, je pense que ça renforçait le collectif, quoi. Et souvent, j'ai écouté quelques-uns de vos interviews là, c'est quelque chose qui ressort, le collectif dans cette entreprise. Et il y avait aussi les tournois de solidarité. Parce que quand je suis arrivée, moi, il y avait déjà la mutuelle, mais elle n'était pas obligatoire. Mais quand, sans doute, quelques années auparavant, il n'y avait pas de protection sociale aussi, d'un aussi bon niveau. Et du coup, il y avait une caisse de solidarité qui appartenait aux ateliers, dans tous les chantiers. Et c'était géré bénévolement, et je pense assez honnêtement. Et du coup, tous les ans, il y avait un tournoi de solidarité. Alors là, c'était tout l'atelier, enfin, tous ceux qui voulaient, parce qu'il n'y avait pas d'obligation. Cadre compris, qui se retrouvaient à jouer au foot. Alors, au BF, on allait... Enfin, au BF, c'était jouer au foot, pour ceux qui jouent au foot. Eh bien, on allait à Saint-Renan. Alors, nous, il n'y avait pas de repas le midi, par contre. Les équipes, une équipe du Métolège, une équipe de sa tracée, chaque équipe faisait son trafic. Et en début d'après-midi, on se retrouvait. Et match de foot tout l'après-midi, avec buvette, casse-boîte et fête foraine, comme on dit. Du coup, il y avait quelques coups de latte, des fois, dans les matchs de foot, avec des petits règlements de compte. Des petites vengeances, mais n'empêche que ça rapportait des sous, puisque la buvette sans doute tournait bien. Et après, c'est une caisse qui servait quand il y avait un coup dur, quelqu'un qui était malade longtemps, qui était en demi-salaire, ou quelqu'un qui décédait dans la famille. Et ça, c'était vraiment une caisse de solidarité. Et là, c'était sur notre temps de congé. Et on n'avait pas besoin d'avoir un beau journal pour nous fédérer avec les cadres. Parce que là, les cadres venaient aussi. Ouais. Mais il n'y avait pas d'obligation, quoi. Mais c'était naturel. Et on, après, il y avait un arbre de Noël aussi, donc qui était fait à l'époque au Ruif Collet, donc on est dans la grande salle. Donc il y avait Père Noël, et puis il y avait des contes. Et du coup, bah, ceux qui avaient des enfants, avec ces sous-là, il y avait des petits, c'était des petits cadeaux, c'était pas grandiose non plus. Et les célibats, ils avaient le droit à un panier garni, quoi. Voilà. Mais par contre, pareil, alors je sais plus si c'était ça, ça devait être le vendredi soir après le boulot qu'on allait à cette. Mais il y avait toutes les familles qui allaient, il y avait un petit spectacle aussi.
Le seul tournoi de solidarité qui subsiste, c'est celui de l'artillerie navale.
À l'île Longue aussi.
Hein. Ah, il y a une autre là-bas. Et il y a eu la pause là, depuis 2 ans, il n'y a pas eu. Mais c'est vrai que c'est toujours une ambiance. Ça fait un peu sortie intégration, c'est vrai que c'est sûr. C'est sur notre congé, mais bon, c'était convivial. Tous les ans, et puis tout le monde donne un coup de main. Chez nous, il y a le midi, il y a le casse-croûte, enfin, il y a barbecue, merguez.
Pourquoi est-ce que vous quittez, du coup, les bâtiments d'enfer?
Alors, je me suis retrouvée, donc j'étais au métaux léger, et puis il y a eu la venue un petit peu de l'informatique. Il y a eu une petite machine. Alors, au BF, il y avait une grande machine au plasma qui découpait les tôles. Et puis au métolège, on en avait une plus petite. Et du coup, il y a un plus jeune collègue que moi qui était donc sur le PC, qui lui récupérait les demandes de boulot. Et c'était lui qui faisait les plans. Et moi, j'étais à la machine à importer les fichiers, mettre les toiles pour que ça découpe. Du coup, ça m'a un petit peu donné le goût de l'informatique, quoi, parce que à l'époque, on n'y connaissait pas grand-chose. Et puis bon, je pense que j'en avais un petit peu marre aussi. J'avais envie de bouger. Et là, il y avait à l'époque, c'était au Greta, on pouvait s'inscrire. Il y avait un cours de CAO, donc construction assistée par ordinateur, et DAO, dessin assisté par ordinateur. Et je me suis inscrite. Et déjà, à cette époque-là, donc nous, les ouvriers d'État, on n'avait pas le fonds GESIF, mais on avait le CIF, le congé individuel formation, qui était financé à 85%. Pour notre salaire, le salaire était financé à 85%. Par contre, la formation n'était pas prise en charge. Donc, à l'époque, il y en avait pour 11 000 francs. 22 000 francs, il y en avait. Il y avait 5 mois de formation, 22 000 francs. Donc, ça représentait presque 4 mois de salaire à l'époque. Donc, j'étais faire un prêt. Donc, comme j'étais tout seul et que mon employeur ne finançait pas, du coup, ça devait être le conseil général qui finançait à la moitié. Donc, du coup, j'en avais pour 11 000 francs. J'ai fait un prêt. À l'époque, à l'IGESA, qui était notre. Ou l'ASA, l'Action sociale des armées, qui. Donc j'ai fait un prêt 0% pour me payer une formation, et je suis allée 5 mois en formation Greta. Donc ça m'a fait un bol d'air. Donc du coup, après, j'ai appris le DOS, c'est encore un ancêtre de l'informatique, des bases 3+, c'était l'ancêtre de Filmmaker Pro, je crois, et AutoCAD, qui existe toujours, mais qui s'est un petit peu modernisé. Et donc j'ai fait cette formation sur 5 mois. C'était super intéressant parce que aussi c'est pareil, j'ai rencontré des gens qui étaient de tout milieu, des gens qui étaient en reconversion parce que ça leur plaisait pas leur métier ou parce qu'ils pouvaient plus le faire. Enfin, donc par contre, c'était non diplômant. Et quand je suis revenue au métolège, il y avait la modernisation, la salle à tracer. Donc j'ai eu quelques plans à mettre sur ordinateur. Et il y a un gars après du bureau d'études sous-marins qui était très en avance sur tout ce qui était informatique, qui a eu vent de ma formation. Et à l'époque, je dis souvent à l'époque, les dessinateurs qui étaient dans les bureaux d'études, c'était encore beaucoup la table à dessin et le crayon ou le rotring. Et c'était déjà en train de bien basculer côté informatique. Et donc, il y avait des techniciens dessinateurs qui étaient très bons intellectuellement, tout ça, mais qui n'étaient pas du tout aguerris à l'informatique. Donc, il fallait mettre ces plans-là à jour. Donc, moi, j'étais pas technicien, je mettais à jour les plans, quoi. Ce que faisait à une époque un métier qui s'appelait, s'il y avait des filles quand même qui étaient dans les bureaux d'études avant, que ça s'appelait des calqueuses. C'était des femmes souvent qui avaient fait des études. Alors, certaines avaient fait des bacs techniques et d'autres venaient de la couture. Je me rappelle Gabi, elle venait de la couture. Et les calqueuses, donc c'était des. Parce qu'à l'époque, tous les plans des bateaux étaient sur des grands calques à zéro, donc de grande taille. Et donc il y avait les dessins, cartouches. Et quelquefois, quand on modifiait l'installation, le dessinateur il disait il faut changer ça, parce que c'était lui qui disait la modif. Mais des fois, plutôt que de perdre du temps à tout mettre le dessin propre, il sous-traitait ça aux calqueuses. Donc c'est ces femmes-là qui n'avaient pas le côté technique de prise de décision, mais qui avait le côté technique de rendre un dessin parfaitement aux normes. Et elles avaient un petit surnom, enfin une petite anecdote encore qui était rigolote. Comme c'était des calques, hein, quand il y avait des modifications à faire, ben elles y allaient, comme c'était au Rotary, elles y allaient à la lame de rasoir pour gratter le calque, puisqu'on ne pouvait pas gommer. Et donc après, elles retraçaient. Et comme c'était sur ordre des dessinateurs, on disait qu'elles grattaient les couilles des dessinateurs. Parce qu'elles enlevaient les bêtises. Oui, c'est une bêtise, gratter les couilles des dessinateurs. Mais on en a des dizaines et des dizaines. Hein. Gérard Cabron en a quelques-unes, mais on en a aussi d'autres. Donc là, et du coup, souvent, il y avait pas mal de femmes qui étaient... Enfin, moi, je sais qu'il y avait Gabi et Hélène. C'était des femmes qui étaient issues soit elles étaient embauchées comme T0, donc technicien 0. Enfin, il y avait T1, T2, T3, T4. Elles étaient T0, donc en bas de l'échelle. Mais n'empêche qu'elles avaient un rôle de mettre à jour les plans. Et moi, j'ai fait ça un petit peu, mais côté informatique, quand je suis arrivée au bureau d'études sous-marin. Et puis, ça m'a... Après, d'être dans un bureau d'études, ça m'a un petit peu manqué... de prendre l'air, quoi, parce qu'on est dans un bureau d'études, on est dans un bureau. Hein. Les techniciens encore allaient à bord quand même pour vérifier les modifs, tout ça. Mais moi, je passais les trois quarts de mon temps... Ouais. Donc ça, je me suis rendu compte au bout de quelques années que ben, c'était pas ma tasse de thé. J'avais aussi essayé de... J'ai pris des cours alors, au CNAM. Et puis, c'est pas le ZEU qu'on appelait ça. À l'université aussi, mais... Oh, c'était pas ma tasse de thé non plus, les maths, les physiques, et puis... Ouais, c'était des cours du soir. Ouais.
Du soir. Ouais, après le boulot.
Du coup, j'ai laissé tomber ça. Et pareil, de fil en aiguille, il y avait une personne qui s'en... À l'artillerie, il y avait une personne qui s'en allait, qui changeait de poste. Et elle s'occupait à l'axiométrie, justement, de tout ce qui était traitement des informations, des mesures faites par l'axiométrie. Comme j'étais taulier, que je maîtrisais les outils informatiques, elles se sont dit, ça colle, quoi. Donc, c'était Véronique Fatin. Du coup, je suis allée la remplacer. Et donc, je me suis retrouvée... Et c'est là que, du bâtiment en fer au bas de Saint-Dix, au bureau d'études sous-marins, je me suis retrouvée au sacro-saint, l'artillerie navale.
La Grande Maison, une émission de Martin, Cause et Léouette, à retrouver chaque semaine sur Radio U.
On les retrouve en raccourci dans nos petites amours d'un jour, toutes les joies, tous les soucis, des amours qui durent toujours. C'est là le sort de la marine et de toutes nos petites chéries. On accoste vite un bec pour nos baisers le corps avec, et les joies et les bouderies, les fâcheries, les bons retours. Il y a tout ça en raccourci.